VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 14 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Dès le début de cette édition, le journal de la Cannes avec Emmanuel Juntaf.
La France parle de pleine liberté d'entrer dans l'espace aérien malien après les accusations maliennes de violations manifestes.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé au gouvernement malien un calendrier électoral acceptable.
Dans l'est de la RDC, 7 civils, 2 soldats et un policier ont été tués et un hôpital incendié dans des attaques de groupes armés. Voilà quelques-uns des titres de cette édition.
Le Cameroun domine l'Éthiopie et s'assure une place pour la suite de la compétition. C'était hier, en deuxième journée de la phase de poule de la CAN. Une journée qui a également souri aux étalons du Burkina Faso, vainqueur face au Cap-Vert. De Yaoundé, le journal de la CAN, d'Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Vincent Aboubakar par deux fois. Karl Toko et Kambi, avec deux réalisations, ont désillusionné la sélection éthiopienne au stade d'Olembi. Et pourtant, c'est l'Éthiopie qui a fait douter les Camerounais, en ouvrant le score à la 4e minute. L'attaquant des Lions, indomptable, Karl Toko et Kambi, savoure cette victoire.
On est heureux parce que on sait que cette victoire est synonyme de qualification. Malgré qu'on ait pris un but d'entrée, on a su réagir et ça montre encore que mentalement on est prêt et qu'on est prêt à aller au bout dans cette compétition.
En deuxième rencontre, le Burkina Faso s'est relancé en dominant le Cap-Vert sur le score de 1-0. De quoi satisfaire l'entraîneur burkinabé Kamou Malo, qui obtient un bon résultat pour son premier match de CAN en tant qu'entraîneur.
Ça nous permet en tout cas de recoller au reste du peloton. La suite, c'est tout simple. Il faut gagner pour pouvoir se qualifier. Donc, on est bien sûr habité par un sentiment de fierté et du devoir accompli. Et surtout quand vous pensez que vous avez remis du baume au cœur de milliers de Burkinabés.
Et à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, la victoire des étalons a fait exploser, nous dit notre correspondant sur place, Alidou Ouédraogo.
Au coup de sifflet final, c'était des scènes de liesse du boulevard de l'indépendance au rond-point du paysan et de la CAF. Des scènes surréalistes avec les cales des motos qu'on frotte sur le bitume pour faire jaillir des étincelles. Vêtu des couleurs nationales, Ibrahim Ouangara, la trentaine dépassée, salue cette performance du 11 national.
C'est la victoire qui compte. On a besoin de 3 points, on a eu les 3 points.
Victoire oui, mais à quelque part, ça laisse un goût d'inachevé selon Karim Sanogo.
Kamou Malo fait des classements, on comprend pas. Mohamed Lamine Konaté, ça va pas. Adama Guida, ça va pas. Siri Bayala, ça va pas.
Cette performance des étalons donne un tant soit peu un sourire au Burkinabé, meurtri par la situation sécuritaire délétère. À Bobo Dioulasso, la correspondance de Alidou Ouédraogo pour VOA Afrique.
Depuis Libreville à présent, retrouvons Jules Valentin Ngoui pour le coup de sifflet du jour.
Bonjour. Comme prévu, la qualité et l'intensité de jeu sont montées d'un cran en cette deuxième journée décisive, inaugurée par le match Cameroun-Éthiopie dans le groupe A, où les entraîneurs ont commencé à battre leurs cartes tactiques. En première mi-temps, par son jeu court et sa capacité à gagner la bataille des couloirs, l'Éthiopie a réussi à gêner la remontée au sol des ballons camerounais et exploiter des contre-meurtriers à la moindre récupération de balles, contraignant les locaux à un score de parité à la pause. La deuxième mi-temps sera tout autre chose. L'entraîneur camerounais, ayant décidé de ramener Choupo-Moting au poste de relayeur-passeur afin d'ouvrir le couloir droit au rapide Faye Collins, désormais pourvoyeur de bons ballons aériens, la faiblesse de la défense éthiopienne, qui cédera à 3 reprises au coup de butoir de Toko Ekambi et de Vincent Aboubakar, avec au finish une large victoire de 4-1 qui qualifie et rassure le Cameroun. En deuxième heure, le Burkina Faso, qui s'arrache dans une bataille physique imposée par le Cap-Vert, habitué à l'exercice, réussit, en l'absence de son joueur vedette Bertrand Traoré, à assurer l'essentiel, c'est-à-dire conserver un avantage 1-0, qui le remet dans le sens de la marche, en partie grâce à la performance de son gardien de but. Pour le reste, les matchs du jour nous plongent dans la logique des derbies. Tout simplement, que les meilleurs gagnent. À bientôt.
Au sujet du derby Sénégal-Guinée-Conakry, prévu ce vendredi dans la poule B, écoutons Kaba Diawara, le coach de la Guinée. Il s'exprime au micro d'Amédine Si.
C'est pas une finale de groupe parce que derrière il y aura encore un match, mais c'est un match à saveur spéciale. On a tous envie de le jouer, on a tous envie de le coacher, donc on s'attend à un gros match, mais voilà, j'espère que ça va se jouer avec un esprit fair play.
Parole à Liou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, qui souligne que son équipe va aborder le match dans l'humilité et la confiance.
C'est un derby, mais de notre côté, nous le préparons de la même façon que les matchs précédents et de la même façon que les matchs à venir.
À Liou Cissé, au micro d'Amédine Si. L'autre match va opposer le Mali au Zimbabwe dès 16h, temps universel, toujours à Bafoussam. À Yaoundé, dans la poule C, le Maroc fait sa deuxième sortie face aux Comores. La dernière rencontre de cette poule prévoit un alléchant Gabon-Ghana. Le journal de la CAN de ce matin s'achève. Amédine Si, Alidou Ouédraogo, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, la France assure que ses avions militaires dispose d'une entière liberté pour entrer dans l'espace aérien du Mali. Les autorités de ce pays ont pourtant fermé les frontières en réponse à des sanctions ouest-africaines, Mohamed Oumfa.
Les informations sur une supposée violation de l'espace aérien malien relèvent d'une incompréhension liée aux fermetures récentes des espaces aériens, a dit l'ambassade de France à Bamako, précisant que les textes en vigueur entre le Mali et la France autorisent parfaitement le vol d'avions de la force Barkhane, y compris dans les circonstances actuelles. Air France a suspendu ses vols vers Bamako. Le gouvernement malien a dénoncé mercredi la violation manifeste de l'espace national. Un responsable militaire français a indiqué que la France n'a été informée d'aucune nouvelle restriction et a invoqué l'existence d'accords de défense. Dans son courrier au chef d'état-major malien, le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane, écrit que les appareils de la force française et ceux du groupement des forces spéciales européennes Takuba rencontrent des difficultés depuis mardi. Il a écrit à l'état-major malien que les appareils et les véhicules français jouissent d'une pleine liberté de circulation en vertu des accords existants. La junte au pouvoir à Bamako a fermé ses frontières aux États de la CEDEAO qui a décidé dimanche de sanctionner sévèrement le Mali.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé jeudi au gouvernement malien un calendrier électoral acceptable à la veille de manifestations dans le pays à l'appel de la junte au pouvoir pour dénoncer les sanctions récentes prises par la CEDEAO. Voici un extrait des déclarations de M. Guterres lors d'une rencontre avec des journalistes.
Je crois que c'est absolument essentiel que le gouvernement malien présente un calendrier acceptable du point de vue des élections et que ça puisse permettre, tenant compte de la déclaration du président du Mali, qu'il est ouvert à la coopération avec la CEDEAO, que ça puisse permettre que la décision de la CEDEAO, qui établit que si le gouvernement malien présente un calendrier acceptable et prend les mesures dans cette direction, il y aura une levée progressive des sanctions. Et naturellement, je travaille avec la CEDEAO et avec l'Union africaine pour créer les conditions qui puissent permettre que le gouvernement du Mali adopte une position raisonnable et acceptable pour accélérer une transition qui dure déjà il y a longtemps et que ça puisse permettre un rétablissement de la normalité dans les relations entre cet État et la communauté internationale, la CEDEAO en particulier.
C'était le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au Burkina Faso, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, 4 officiers supérieurs de l'armée ont été nommés hier à la tête de régions du Nord et de l'Est, des zones où sévissent depuis 2015 des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Malgré des opérations contre ces groupes, l'armée a du mal à contenir les violences qui ont fait plus de 2000 morts en 6 ans et contraint plus de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 7 civils, 2 soldats et 1 policier ont été tués mercredi et un hôpital a été incendié dans des attaques de groupes armés. Les détails avec Ginny Kapumbuvula.
Des affrontements ont eu lieu mercredi à Butembo entre l'armée et des miliciens Maïmaï qui ont causé la mort de 7 civils, 2 militaires, 1 policier ainsi que 4 miliciens, a déclaré le colonel Dona Madonga, administrateur du territoire voisin de Lubero. Par ailleurs, les rebelles ADF ont tué mercredi 4 femmes et 3 hommes trouvés dans leur champ sur l'axe routier Beni-Kassindi qui va vers la frontière ougandaise, a déclaré Ricardo Rupande, président de la société civile de Rwenzori. Ils ont aussi incendié complètement le centre de santé de Luonoli dans la région de Beni. En riposte, l'armée a bombardé des positions des rebelles ADF dans le secteur, a indiqué le capitaine Anthony Mwalashuai, un porte-parole de l'armée. Les armées congolaises et ougandaises mènent depuis le 30 novembre des opérations conjointes contre des positions des rebelles ADF dans la région.
Pardon Michel, la Cour suprême des États-Unis a bloqué hier la décision du président Joe Biden d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés, infligeant un revers de taille aux efforts du président démocrate. La haute juridiction a en revanche validé l'obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.
États-Unis toujours, Idrissa, la sénatrice démocrate Kirsten Sinema a dit s'opposer à la stratégie proposée par le président Joe Biden pour faire adopter une réforme électorale au Sénat américain. Claire Moragibour.
La sénatrice Kirsten Sinema a dit qu'elle continue à soutenir ses projets de loi, mais ne soutiendrait pas d'actions distinctes qui, selon elle, vont aggraver la division qui ronge le pays. Sa voix est indispensable pour adopter cette manœuvre pour changer les règles au Sénat américain. Il faudrait en théorie le soutien de 60 sénateurs sur 100. Cette règle du filibuster est censée encourager la modération et le dialogue par-delà les lignes partisanes, mais elle donne aussi un énorme pouvoir de blocage à l'opposition. Le Sénat américain est actuellement composé de 50 sénateurs démocrates et 50 sénateurs républicains, avec le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris. Éliminer le seuil de 60 voix avec la plus mince des majorités possibles pour faire passer ces projets de loi que je soutiens ne garantira pas que nous empêchions les démagogues d'arriver au pouvoir, a déclaré l'élu modéré, dénonçant la spirale infernale de la division qui mine l'Amérique. Joe Biden a promis de protéger le vote des minorités et la transparence des opérations électorales face à une multitude de réformes engagées par des États conservateurs dans le sud du pays.
Par ailleurs, dans le sud du pays, la mort de Jason Walker, un homme noir abattu par un policier blanc dans des circonstances confuses, suscite des remous à Fayetteville, en Caroline du Nord. Les proches de la victime ont appelé hier soir à manifester. Le point avec Nani Talani.
Des résidents ont déjà défilé à plusieurs reprises cette semaine à Fayetteville pour réclamer l'arrestation du lieutenant Jeffrey Hash, le policier blanc qui a abattu par balle Jason Walker, un homme noir âgé de 37 ans, samedi dans l'après-midi. L'agent de police n'était pas en service. Il roulait à bord de son véhicule avec sa famille et sa fille quand il a croisé Jason Walker, non armé, traversant la rue près de la maison de ses parents. Quelques instants plus tard, Jeffrey Hash a ouvert le feu sur l'Africain-Américain qui a succombé à ses blessures. On ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé. Dans une vidéo amateur filmée après le drame, le policier explique à des collègues appelés sur place que Jason Walker s'est jeté au milieu de la rue et qu'il a freiné pour l'éviter. Selon lui, le trentenaire s'est alors jeté sur son véhicule, a arraché son essuie-glace et s'en est servi pour frapper le pare-brise, le forçant à dégainer son arme pour protéger sa famille. D'autres témoins assurent que le policier a heurté le piéton avant de s'arrêter et lui tirer dessus. Selon la police, la boîte noire du pick-up du policier n'a pas enregistré de choc et que le corps de Jason Walker n'avait pas de trace d'impact autre que celui des balles. L'agent incriminé a été placé en congé administratif payé en attendant l'enquête. Pour le moment, il n'est ni arrêté ni inculpé.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La France a donc estimé hier que ses avions militaires disposaient d'une entière liberté pour entrer dans l'espace aérien du Mali, bien que ce dernier pays ait fermé ses frontières en réponse à des sanctions ouest-africaines. Le gouvernement malien a dénoncé mercredi ce qu'il a appelé la violation manifeste de son espace aérien la veille par un avion militaire français faisant l'aller-retour entre Abidjan et Gao, importante base française au Mali. La junte au pouvoir à Bamako depuis le putsch d'août 2020 a fermé ses frontières aux États de la CEDEAO après que cette dernière a fait de même dimanche pour sanctionner le projet des militaires de se maintenir à la tête du pays pendant plusieurs années sans élection. Pour une analyse, John Lyndon a joint le professeur d'histoire et d'études panafricaines Nyaka Lagoke.
Je m'oppose à ces sanctions. Elles sont dues et nous estimons que la CEDEAO aurait pu être beaucoup plus patiente et engager des véritables négociations avec les autorités maliennes dans la mesure où le prétexte qui est utilisé pour justifier les sanctions a été plus ou moins falsifié dans la mesure où on a fait croire à tout le monde que les autorités maliennes voulaient rester au pouvoir pour 5 ans de transition. Or, on sait qu'ils se sont dit qu'ils veulent gérer la situation pendant une période qui va de 6 mois à 5 ans. Donc cela veut dire qu'il y a la possibilité pour de négocier. Et donc c'est pour cela que nous trouvons que ces sanctions sont trop dures.
Comment analyser l'attitude de la France dans tout ce dossier? On sait qu'elle est en train de pousser pour des sanctions européennes aussi.
C'est triste pour ces Français qui n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans un nouveau processus en Afrique. Que ce soit ce qui s'est passé au Sénégal en 2012, au Burkina Faso en 2014, et puis ce qui se passe au Mali depuis 2021, et puis un peu en Guinée, il y a eu ce qui se passait en Côte d'Ivoire avec le procès de Laurent Gbagbo qui est sorti de la CPI. Les peuples africains de l'Afrique francophone veulent plus de souveraineté, ils veulent plus d'indépendance. Et la France estime qu'il faut qu'elle utilise tous ses pouvoirs afin de briser cet idéal de souveraineté. Et nous estimons que nous sommes engagés dans un combat contre le néocolonialisme français. Et plus le temps passe, plus la France s'expose à la face du monde comme cette puissance-là qui ne veut pas s'ajuster par rapport au désir de souveraineté des peuples africains au XXIe siècle.
La CEDEAO dit agir justement au nom du peuple malien, mais le peuple semble dire le contraire.
Aujourd'hui, ce que la CEDEAO fait ou ce que la France fait, les gens veulent donner le sentiment qu'au Mali, il y a un petit dictateur qui s'appelle Assimi Goïta qui est arrivé au pouvoir et qui veut rester au pouvoir pendant 5 ans. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons été tous témoins des manifestations populaires et révolutionnaires dirigées par l'imam Diko au Mali. On ne savait pas qui était encore Goïta. C'est les Maliens qui se sont mis dans les rues pour que Ibeka parle du pouvoir. Maintenant, la CEDEAO ne peut pas estimer qu'elle est en train de défendre les intérêts du peuple malien parce que la CEDEAO représente de qui? Si on parle du Bouhari au Nigeria, tout le monde sait comment est-ce que le Nigeria est géré. En Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara a dû utiliser des moyens dictatoriaux pour pouvoir s'imposer au pouvoir en changeant la constitution. Et donc, on peut prendre tellement d'exemples qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, il y a une dichotomie entre ce que Nicolas dit, et entre la CEDEAO des peuples et puis la CEDEAO des États. Et des États dirigés par une élite politique africaine, manipulée par les Occidentaux et qui estiment qu'il faut servir les intérêts des puissances extérieures au détriment des intérêts des populations.
Eh bien, c'était le point de vue du professeur Nyaka Lagoke, analyste politique joint ici aux États-Unis. L'administration Biden, qui avait envisagé de réduire le soutien aux opérations militaires de la France en Afrique, a plutôt décidé de continuer la coopération américano-française en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint ici à Washington Michael Shukin, politologue et chercheur pour le think tank à 14N Strategies.
Et je crois que, du point de vue américain, ce qui est plus important, c'est simplement le renforcement des rapports entre les États-Unis et la France. Donc, même si les informations que les Américains fournissent à la France ne servent à rien, en fin de compte, et n'a aucun effet opératif, ça vaut la peine quand même parce que ça renforce les rapports avec la France. Qui est dans les intérêts du pays. Donc, s'il y a un effet positif sur les opérations militaires françaises sur le terrain, tant mieux. Mais j'imagine que c'est un intérêt secondaire pour les États-Unis.
Effectivement, dans un article du Washington Post, vous dites que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de couper une telle relation, une telle coopération militaire avec la France.
Non, à mon avis, c'est pas dans les intérêts. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a des crises partout. Il y a la crise ukrainienne avec la Russie. Il y a aussi la rivalité avec la Chine dans l'Indo-Pacifique. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de crises. Et si en général, c'est dans les intérêts des États-Unis d'avoir des alliés, des amis et le soutien de la France. Et donc, du point de vue des priorités des Américaines, le destin du Mali n'est pas si important que ça. Et donc, c'est un faveur à la France, mais c'est un faveur qu'on fait parce qu'il faut avoir des bonnes relations avec la France, parce qu'on veut avoir la coopération de la France sur le plan diplomatique et militaire. Et c'est vrai que les Américains, les Américains peuvent bien faire des choses sans les Français, sans les Britanniques, sans les Canadiens, etc. Mais il vaut mieux avoir des amis que ne pas avoir des amis. Et surtout avec les crises qui sont là. Et en général aussi, par exemple, si vous regardez la politique française vis-à-vis la Russie et vis-à-vis la Chine, vous voyez qu'il y a très peu de différence, il y a très peu de distance entre la France et les États-Unis. Et la France sous Macron est assez dure avec la Russie, est dure avec la Chine, mais ça peut changer. C'est-à-dire qu'il se peut que la France va décider d'être moins dure avec la Russie, moins dure avec la Chine, et peut choisir une politique plus douce, plus souple, plus gentille, et chercher une autre stratégie.
Michael Shukin, politologue à 14N Strategies. L'ancien fonctionnaire mauritanien de l'ONU et expert en stratégie politique, Mohamed Ali Lemrabot, craint une lutte d'influence et des sanctions pouvant pousser à ce qu'il a appelé la libisation du Mali. L'expert est interrogé au lendemain de la visite d'une délégation de la CDAO pour faire adhérer Nouakchott aux sanctions contre la junta Bamako, nous dit notre correspondant sur place, Mohamed Diop.
Les sanctions lourdes imposées par la CDAO contre la junte au pouvoir à Bamako interviennent dans un contexte de lutte des superpuissances internationales pour affirmer leur présence au Mali, indique Mohamed Ali Lemrabot. Mais l'ancien fonctionnaire mauritanien des Nations Unies et expert en stratégie politique alerte sur les conséquences.
Il ne faudrait pas que cette lutte se traduise par des conséquences qui dont pâtiraient surtout les populations et les pays en question.
L'expert craint même, à la longue, une libyisation du Mali.
Autant les nouveaux dirigeants militaires du Mali n'ont pas eu raison de vouloir bouter dehors la France et de lui substituer une autre puissance, autant la France, qui est donc notre allié historique, devrait faire attention à ce que ces sanctions internationale n'engendre pas d'effet contraire et ne fasse pas du Mali une nouvelle Libye. L'intervention militaire qui a eu lieu en Libye en 2011 s'est traduite par le chaos que ce pays vit continuellement depuis une dizaine d'années.
Et à cette concurrence de superpuissants sur le terrain malien, Mohamed Ali Lamrabot ajoute deux autres facteurs pour expliquer la crise politico-diplomatique qui secoue ce pays du Sahel.
La persistance d'une situation de conflit armé entre les groupes armés et le pouvoir central à Bamako, et ce depuis 10 ans. Et les deux coups d'État survenus au cours de l'année écoulée. Et donc le dernier s'est traduit par une feuille de route qui semble proposer un calendrier de transition qui n'est pas consensuel, c'est-à-dire qui paraît trop long aux yeux des partenaires étrangers du Mali.
De son côté, la CEDEAO est en discussion avec la Mauritanie pour faire adhérer Nouakchott aux sanctions contre la junte au Mali. La Mauritanie, qui n'est pas membre de la CEDEAO, partage une longue frontière avec le Mali. L'organisation sous-régionale évite donc que Nouakchott soit une voie de contournement des sanctions imposées à Bamako. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, et nous vous le disions hier, les autorités fédérales ont mis fin à l'interdiction de Twitter après plus de 7 mois de suspension. Twitter avait supprimé un message du président Muhammadu Buhari qui menaçait de punir les sécessionnistes. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Au Nigeria, les utilisateurs des réseaux sociaux ont inondé Twitter depuis ce matin, réagissant à la levée de la suspension en utilisant des hashtags tels que Twitter is back ou encore Twitter est de retour. Le gouvernement a annoncé mercredi soir qu'il allait lever son interdiction sur les opérations du géant des médias sociaux. La réaction d'un entrepreneur dans le numérique, Adamu Garba.
Le fait qu'ils vont ouvrir leur bureau au Nigeria, recruter un staff local et payer des taxes, cela signifie qu'à chaque fois qu'il y aura un problème concernant de fausses informations, Twitter ne va pas utiliser sa plateforme pour publier de telles informations, sachant bien qu'ils seront une victime. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Twitter a accepté des conditions du gouvernement nigérian, notamment l'ouverture d'un bureau local, le traitement des opérations des problèmes fiscaux et la gestion des publications interdites conformément à la loi nigériane. En juin 2021, les autorités avaient annoncé la suspension de Twitter dans le pays, accusant le géant de la technologie d'autoriser l'utilisation de sa plateforme pour des activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité du pays. Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed.
Nos conditions sont claires. Premièrement, pour faire des affaires ici, ils doivent être accrédités comme une entreprise nigériane. Deuxième condition, ils doivent se faire enregistrer officiellement. Troisième, ils doivent cesser d'autoriser l'utilisation de leur plateforme pour des activités qui peuvent affecter le bien-être du Nigeria.
La suspension est intervenue 2 jours après que Twitter a temporairement suspendu le compte du président Muhammadu Buhari pour avoir enfreint sa politique en matière de comportement abusif après un tweet dans lequel M. Buhari menaçait de punir les sécessionnistes à la suite d'attaques contre des biens publics dans le sud du Nigeria. Cette interdiction avait suscité des réactions de nombreux utilisateurs de Twitter. Le président du groupe des Nigériens concernés, Deji Adeyinju, salue le retour du média social, mais condamne la décision du gouvernement fédéral.
L'interdiction de Twitter, tout d'abord, était un acte antidémocratique. C'était inconstitutionnel et n'avait aucune base parce que la Constitution prévoit aux Nigériens le droit de s'exprimer librement. Ils ont aussi le droit d'opinion et de recevoir des informations.
La suspension avait obligé de nombreuses personnes au Nigeria à se tourner vers les réseaux privés virtuels VPN pour pouvoir accéder à la plateforme en ligne. Malgré l'utilisation massive des VPN, la société civile et beaucoup d'autres Nigériens estiment que l'interdiction était un mauvais signe aux investisseurs étrangers et nuisait aux petites entreprises utilisant Twitter comme source de revenus. Réagissant, le géant des médias sociaux affirme être heureux que Twitter ait été restauré pour tout le monde au Nigeria, ajoutant que sa mission au Nigeria et dans le monde est de servir la conversation publique. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Merci d'avoir suivi cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro Idrissa Sibudia et Michel Joseph. À la mise en onde, Kelvin Paula.